toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, hein, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
C'est une robe longue, richement décorée, ornée d'une ganse de soie brodée et d'une rangée de boutons cousus en face de bride. On appelle ce vêtement traditionnel porté dans tout le monde arabe un caftan. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Au Maroc, cette pièce précieuse est portée par les femmes lors de fêtes et de mariages et chaque région ou communauté imprime sa marque. Un caftan se transmet de mère en fille, de même que le savoir-faire de la broderie, même si l'excellence artisanale tend à disparaître, balayée par l'exigence de rapidité, d'efficacité et de moindre coût. L'un des héros de notre film du jour est un mahalem de la Médina de Salé au Maroc, un maître tailleur, amoureux du travail bien fait. Mais de même qu'il s'applique à ce que l'on ne voit pas les coutures, il ne peut vivre au grand jour son orientation sexuelle. Heureux en couple avec sa femme Mina, son équilibre va être bouleversé par l'arrivée d'un apprenti. Le bleu du caftan, le deuxième film de la réalisatrice marocaine Mariam Touzani, expose ses sentiments mêlés tout en délicatesse. Bonjour Mariam Touzani.
Bonjour.
Le bleu du caftan sort en salle en France mercredi prochain après avoir été montré au Festival de Cannes et avoir remporté le prix de la critique internationale. À vos côtés, Loubna Azabal, bonjour.
Bonjour.
Dans le bleu du caftan, vous interprétez Mina, l'épouse et amie de cet artiste de la broderie. À l'affiche de notre cinéma également cette semaine, on reste au Maroc avec la présentation d'un festival de films panafricains à Rabat. Et puis on ira en Malaisie entendre la joie des spectateurs après le sacre de Michelle Yeoh, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans la comédie hollywoodienne Everything Everywhere All at Once.
حليم دليف قفطان
راجلي معلم ماشي ماكينه
ويدك خفيفه
كنخدم فيسه دابا تشوف القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو تلبسو بنتها من وراها يصبر للسماء
كيخدم زين
كيبان عجبان حرفه بصح كيبان ماشي بحال الاخر.
Un extrait de la bande-annonce du Bleu du Caftan, Mariam Touzani. On a entendu les voix des trois protagonistes principaux de ce film, essentiellement tourné en intérieur, dans la modeste boutique de la Médina de Salé ou dans l'appartement du couple de Mina et Halim. Mina, c'est vous, Loubna Azabal. Halim est interprété par Saleh Bakri et Youssef, le jeune apprenti, c'est Ayoub Missioui. Je parlais en préambule du caftan, cet habit traditionnel que le Maroc d'ailleurs aimerait voir inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et votre film, Mariam Touzani, commence sur des plans où une main, celle de Halim, caresse presque amoureusement le tissu chatoyant d'un bleu bien particulier. Les gestes et ces plans sont très sensuels. Est-ce que ça a participé de votre envie de faire ce film, Mariam Touzani, cet amour de la matière, du travail artisanat patient, délicat, cette pratique qui tend à disparaître ?
Et bien sûr, je suis très touchée de voir que ces maîtres artisans disparaissent les uns après les autres et justement que cette transmission est brisée, qu'il n'y a pas de relève. Moi, j'ai grandi avec un caftan de ma maman, un caftan qui a plus de 50 ans. Et je l'ai vu, petite fille, porter ce caftan sublime lors des grandes occasions. Elle en avait d'autres, mais celui-ci était particulièrement beau parce que travailler justement comme celui du film, avec un travail très élaboré, très méticuleux. Et il me racontait comment il avait été fait, le temps que ça avait pris. Et donc, voilà, moi, j'ai grandi avec la fascination justement de ce travail-là. Et puis, petite fille, je la regardais et je me projetais, je m'imaginais femme un jour portant ce caftan. Et je l'ai essayé à plusieurs reprises. Il a vraiment jalonné mon enfance, mon adolescence, jusqu'au jour où elle me l'a offert. Parce qu'il m'allait. Parce qu'avant ça, il ne m'allait pas. J'étais trop petite. Et ce jour-là, j'ai senti en fait la beauté, la puissance de cette transmission. Ce que ça voulait dire que de porter ce caftan plein, déjà rempli de ses émotions, des choses qu'elle avait vécues dans le passé, partie de son vécu à elle, justement, que je pouvais porter moi. Et puis derrière, aussi imprégné de l'âme de l'artisan qu'il avait travaillé, qui avait donné tellement de soi-même pour faire ce caftan sublime. C'était vraiment une expérience très puissante.
Alors le bleu du caftan, ce n'est pas un documentaire, mais à plusieurs moments dans le film, vous vous attardez sur des gestes bien précis. Par exemple, l'art de filer le fil d'or, la façon de broder aussi, qui peut d'ailleurs peut-être être propre à chaque malem, c'est ça ? Il y a une particularité ?
Alors, il y a une particularité, comme chez chacun, c'est-à-dire chaque personne intègre une manière de faire et en met de soi-même. Après, il y a une manière de faire aussi, justement, qui est selon les règles de l'art. Et je tenais beaucoup, justement, à que ça soit respecté pendant le film, que vraiment ce travail-là soit fait comme un vrai ma'alem le ferait. Du coup, il y a eu beaucoup de travail en amont, de préparation avec des vrais ma'alem, notamment un monsieur qui a coaché les comédiens et qui était là aussi pour vérifier que tout était fait comme il fallait. Mais je voulais vraiment faire attention à ce détail-là. Je voulais le raconter avec vérité déjà. Et puis à travers ce travail justement méticuleux, à travers ce travail que j'avais envie de filmer en gros plan pour la beauté du geste aussi. J'avais envie de pouvoir poser ma caméra et prendre le temps d'observer cet homme travailler parce que ça raconte pour moi tellement de choses sur le personnage lui-même. C'est vraiment pouvoir explorer son désonam à travers le rapport justement à cette matière-là, au fil, la manière de travailler ses tenues.
Le bleu du caftan, Mariam Touzani, c'est une histoire d'amour sous toutes ses formes. L'amour conjugal, l'amour du travail artisanal, l'amour qui ne peut pas dire son nom aussi. Et le film tisse un peu comme le fil de la broderie, toutes les relations qui sont assez complexes entre les personnages.
C'est un film avant tout pour moi sur l'amour justement dans toute sa complexité, parce que pour moi le sentiment amoureux c'est-à-dire l'émotion amoureuse, l'amour est une émotion complexe et qu'on a trop souvent envie de simplifier les choses peut-être afin de mieux les comprendre. Et moi je crois profondément qu'il faut juste se laisser porter parce qu'on ressent et qu'on peut ressentir des choses très très différentes qui peuvent parfois même sembler contradictoires là où elles ne se sentent pas. Et j'avais vraiment ce désir d'explorer la complexité de cet amour, justement, entre ces trois êtres, parce que Halim et Mina s'aiment véritablement. Ils s'aiment d'un amour profond, fort, et on va le voir à travers le film. Et c'est un couple qui apprend, qui quelque part va aller redéfinir son amour, qui va se transcender par amour, grâce à l'amour. J'avais vraiment envie de pouvoir explorer ces différentes facettes de l'amour, justement, dans toute sa complexité.
Alors vous, Loubna Azabal, vous jouez Mina, c'est la femme d'Halim. Elle tient un peu la boutique de son mari, elle prend les commandes, elle fait patienter les clientes, elle protège beaucoup son époux. Elle veille sur lui comme une femme, mais aussi comme sur un artiste.
Oui, vous avez tout dit. Oui, elle veille sur lui, mais c'est ça participe à l'amour aussi. Enfin, elle veille sur lui, elle est très protectrice. Elle a construit, je pense, c'est cette bulle familiale, même s'ils n'ont pas d'enfants, mais elle est sa famille, il est la sienne, donc ils n'ont que deux. Et elle porte peut-être aussi un peu la culotte, mais même si j'aime pas trop cette expression, mais c'est pour ça qu'elle va vouloir un moment aussi lui apprendre à pouvoir s'assumer, pas juste en tant qu'artiste, mais parce qu'il l'est, mais aussi en tant que probablement businessman, de pouvoir tenir la boutique, de pouvoir aussi s'assumer dans ce qu'il est profondément, c'est-à-dire l'amour qu'il pourrait ressentir aussi. Je ne veux pas dévoiler les choses, mais
on y reviendra, pour les hommes.
Voilà, pour les hommes, voilà, effectivement, quoi. Mais elle fait un travail aussi sur elle-même avant de pouvoir. Il y a une acceptation qu'elle doit prendre, elle, pour pouvoir le lui offrir aussi, sinon, enfin, voilà.
Elle est beaucoup dans le don, en fait.
Elle est dans le don, et puis elle a une intelligence instinctive, une intelligence aussi amoureuse, parce que l'amour, c'est ça aussi, c'est tout sauf de l'égoïsme. Donc la façon dont elle comprend très vite les choses, elle va les garder pour elle, elle va garder sa douleur pour elle, même si parfois elle va transparaître, mais sa douleur, elle va la garder, elle va la digérer, elle va la comprendre, et puis elle est très clairvoyante, quoi.
C'est un couple, alors vous disiez, vous avez utilisé une expression même si vous ne l'aimez pas trop, mais en fait ils déjouent tous deux presque les rôles traditionnellement assignés aux hommes et femmes dans une société patriarcale. Lui, il est beaucoup plus intériorisé, elle, elle est beaucoup plus, alors je ne sais pas si on peut dire dominatrice, mais en tout cas affirmée.
Elle est assumée, c'est elle qui le demande en mariage, voilà, elle a quelque chose d'assez moderne, C'est quelqu'un, je pense, qui dit les choses. Elle a tout de suite aimé cet homme. Elle a tout de suite senti qu'elle pouvait faire sa vie avec lui. Et probablement qu'elle a aimé ses failles très vite aussi. Même si les choses ne se disent pas, voilà.
Vous êtes imaginé, Loubna Zabal, ce qu'a été leur passé? Parce que ce n'est pas dit, à part effectivement, on comprend que c'est elle qui l'avait demandé en mariage. Mais on ne connaît pas leur passé, on ne sait pas d'où ils viennent. Enfin, je veux dire, on ne connaît pas leur famille, on ne sait pas s'ils en ont. Vous êtes, vous, imaginé pour incarner Mina? Est-ce que ça fait partie de votre travail, de votre préparation d'actrice?
Pour imaginer Mina, moi j'ai une image, j'en avais très vite parlé d'ailleurs à Mariam. Moi, je suis une grande admiratrice de Frida Kahlo et j'ai tout de suite pensé à Frida Kahlo. Voilà, j'ai pensé à son amour... inconditionnel pour Diego Rivera. J'ai pensé à la douleur physique qu'a ressenti cette femme pratiquement toute sa vie, et sa douleur psychique aussi, parce qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs, et puis aussi cette joie de vivre que portait cette femme et cette envie d'être là tout le temps, et que ce soit par la peinture ou par physiquement, elle est là, même si son corps la martyrisait. Et elle m'a beaucoup inspirée pour le personnage de Mina. Même dans la coiffure, en fait, j'avais envie de ce chignon parce que ça me rappelait Frida Kahlo. Et après, oui, je me suis imaginée... je pense qu'on peut être dans un pays qui par moment peut vous asphyxier par une culture trop imposante, une culture musulmane, une culture religieuse en gros, et avoir à l'intérieur de soi cette liberté profonde. On ne laisse pas forcément sortir comme on veut, mais elle a senti qu'elle pouvait être ce qu'elle est aussi avec Alim. Et je crois que c'est ça, il y a des choses qui ne se disent pas, mais c'est ça aussi l'amour, c'est dans ce qu'on ressent instinctivement, animalement chez l'autre, et vice-versa. Et voilà, et je pense qu'ils n'ont pas eu besoin même d'autre chose, quoi. Elle aime l'artiste qu'il est, elle le respecte infiniment, et elle tient à ce qu'il continue à travailler comme il travaille, c'est-à-dire à la main, et pas à la machine, c'est pas... Voilà. Il y a beaucoup de respect, voilà, entre...
Et d'estime.
Et d'estime, effectivement.
Alors, moi, ce que j'aimerais rajouter aussi, par rapport au personnage de Mina, parce que vous parliez de ce qu'elle a aussi, cette femme, de tellement différent, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très moderne chez Mina, de très assumé, elle a une très forte personnalité. Et puis, moi, j'avais envie, justement, d'explorer une autre complexité, qui est celle de la foi aussi, parce que Mina est une femme qui est croyante, qui croit profondément. C'est pas une foi d'apparence, elle le fait pour elle. Et j'avais envie justement de pouvoir raconter ça, parce que Mina est croyante, mais ça ne l'empêche pas d'être ouverte. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aussi, je pense que modernité et tradition peuvent coexister. À travers ce film, j'avais envie de parler de ça aussi. Je pense justement et je crois profondément qu'une personne croyante qui à la fois peut être ouverte à beaucoup de choses. C'est juste que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a trop souvent envie de cloisonner les choses, de se dire non, ça doit être noir ou ça doit être blanc. Eh ben non, moi je crois qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça. D'où justement le désir de raconter ce personnage de Mina de cette manière-là et qu'elle est cette fois-là profonde.
Je suis absolument d'accord avec toi, parce que pour moi c'est pas incompatible du tout. Voilà, je pense qu'on veut nous faire croire que c'est incompatible, mais ça ne l'est absolument pas. Et je crois que des Mina, il y en a des centaines et des milliers au Maroc. Hein. C'est vraiment, vraiment...
Mariam Touzani, vous êtes une cinéaste de l'intime. Vous abordez souvent des sujets de société par le biais de l'intimité des familles ou de vos personnages. Cette boutique qui est conçue un peu comme une protection du monde extérieur, où va pouvoir peut-être s'exprimer justement des choses qui ne passeraient pas, qui ne se diraient pas au grand jour. Vous l'avez voulu comme cela ?
Ah oui, absolument. Moi, ce qui me passionne, ce qui m'anime, c'est l'humain et c'est l'intime. C'est-à-dire, c'est l'humain. Pour moi, pouvoir raconter l'humain, c'est en passant par l'intime. C'est quelque part en me coupant un peu du monde et en plongeant dans l'intimité de mes personnages-là. Et là, dans ce magasin, justement, Halim et Mina sont en contact avec le monde extérieur, forcément, parce que c'est là où ils travaillent. Mais en même temps, il y a quelque chose, c'est une sorte de cocon qu'ils ont et dans la boutique et dans leur maison. Ce qui fait que quand on est avec eux à l'intérieur, on est quelque part vraiment dans leur monde intérieur, véritablement, dans leur intimité. Et c'est ce que j'ai eu envie vraiment de pouvoir explorer.
Et vous jouez beaucoup aussi sur les clairs-obscurs.
Oui, même moi, j'adore la puissance de la lumière, la puissance émotionnelle de la lumière. Je suis très inspirée par Caravage. C'est un de mes peintres préférés. Et moi, je trouve extraordinaire la charge émotionnelle qu'on trouve justement grâce à l'utilisation de lumière dans ces peintures. Et donc, je pense qu'inconsciemment, je cherche ça quand je travaille ma lumière avec ma chef opératrice, quand je travaille mes cadres, dans le choix de mes couleurs aussi.
Et Alim donc cache un secret, son attirance pour les hommes, c'est le bleu du caftan. On en parle plus longuement, donc quelques minutes juste après cette nouveauté musicale, hein, c'est Gorillaz, la formation emmenée par Damon Albarn qui vient de sortir un nouvel album sur lequel on trouve cette pépite choisie par notre réalisatrice Alice Ménard. C'est Tormenta en collaboration avec Bad Bunny.
Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. No quiero ver el mundo arder, pero algo tan bonito no se puede perder. El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder. Ey, pa' que no me encuentren. Todo el mundo siempre está pendiente, pero no saben lo que se siente. Cruza conmigo antes que se rompa el puente. Y que se jode el resto. Quien dice lo que está correcto. Si el amor nunca ha sido perfecto. Ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovechamos.
Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Nous sommes en compagnie de la réalisatrice Mariam Touzani et de l'actrice Loubna Azabal pour parler du film Le Bleu du Caftan. Mina et Alim vivent un amour serein jusqu'à l'arrivée d'un nouvel apprenti, Youssef. Il attire les regards d'Alim et de Mina. Il attise aussi peut-être la jalousie de Mina. Elle est dure avec lui, hein, Loubna Azabal, au début.
Comme une femme jalouse.
Elle est jalouse ou c'est par protection ?
Non, je crois qu'à ce moment-là, elle est jalouse et elle ressent une terrible douleur parce que je pense qu'elle sait qu'il est attiré par les hommes, mais tant que ça se fait à l'extérieur de la maison, ou enfin, whatever, tant que ça se passe pas. Mais là, ce qu'elle voit, ce qui la perturbe, c'est qu'elle voit dans le regard de son mari qu'il est amoureux. Et là, et il amène ça à la maison, dans leur intimité, dans ce cocoon dont Mariam parlait. Et là, ça, c'est terrible pour une femme. Parce qu'il y a le sexe, la mécanique, et puis il y a les sentiments. Et là, ça vient tout perturber chez elle. Et ils n'en parlent pas de ça, de cette homosexualité-là. C'est un non-dit. Mmh. Voilà, ils n'en ont jamais parlé, mais jusqu'à la fin, ils en parleront un moment. Mais bon, voilà. Et oui, c'est une douleur profonde qu'elle ressent. Et c'est à ce moment-là qu'elle va devoir faire un travail énorme sur elle pour pouvoir d'abord accepter ça pour pouvoir donner la possibilité à son mari de l'accepter aussi. Voilà, c'est une forme de bénédiction comme ça. Mais oui, non, oui.
Mariam Touzani, le personnage d'Alim, vous avez donné quelle direction à votre acteur? Vous vouliez que ce soit un homme intériorisé, qui ait un peu honte aussi. On a l'impression qu'il y a un peu de, peut-être un petit peu de...
Bah, Halim a appris quelque part durant toute sa vie à raser les murs, parce qu'il a envie de se rendre discret, parce qu'il pense que même quand les gens ne le regardent pas forcément, il pense que les gens vont le regarder, se poser des questions. Donc du coup, il y a toute une partie de son être qu'il est obligé d'étouffer, qu'il est obligé de cacher. Et même quand il n'est pas obligé de le faire, eh ben, il le fait. Il le fait instinctivement parce que justement, il a construit autour de lui une espèce de carapace. Et c'est à travers son travail, sa passion pour le travail de Malum, qu'il arrive aussi voilà, à s'isoler du monde, voilà, à se couper du monde, à se protéger du monde. Et je voulais justement, avec Salah Bakri, qu'on soit dans une intériorité, qu'on soit dans quelque chose, dans une retenue constante. Parce que Halim est comme ça aussi dans sa vie. Il y a quelque chose qui retient, qui reste à l'intérieur. J'avais tout le temps envie qu'on soit, alors je ne sais pas comment dire ça en français, on dit edge, vraiment sur le fil émotionnellement avec lui, qu'il le soit, parce que sa vie c'est ça aussi, et puis il y a toute cette partie à l'intérieur de lui où voilà, ça va dans tous les sens, il y a ce côté torturé aussi, il y a cette fragilité, et puis il y a en même temps cette sérénité, c'est une humanité qui transparaît à travers son regard, cette espèce de calme, mais à l'intérieur il n'y a pas que du calme, voilà, c'est un volcan aussi à l'intérieur.
Halim, donc il a ce secret qu'il assouvit discrètement mais régulièrement, dans un hammam, aucun mot n'est échangé, tout passe par les regards. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il y a beaucoup de choses qui passent par les regards dans ce film, Mariam Touzani.
Oui, j'aime en fait pouvoir raconter les choses autrement qu'avec des mots. J'aime l'émotion qui passe par les détails, par les petits détails qu'on ne verrait pas forcément d'habitude. J'aime l'émotion qui passe justement à travers des regards, à travers les choses qu'on ne dit pas, à travers des non-dits. Et j'aime me débarrasser du superflu, si on peut l'appeler comme ça, quand je peux, dans les dialogues. C'est-à-dire, j'aime aller, quand je sens qu'il le faut, à l'essentiel. Vraiment avoir le minimum de dialogue. Afin de comprendre ce qui se passe et justement pouvoir à travers l'image, à travers le jeu des comédiens, justement à travers leurs yeux, à travers leurs gestes, raconter ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux.
C'est une façon assez délicate de lever un tabou, le tabou de l'homosexualité dans la société marocaine, mais dans beaucoup de sociétés dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans la société marocaine, qui n'est pas du tout encore réglé, qui est... où les homosexuels risquent encore leur vie, ou en tout cas d'être mis en prison?
Alors, l'homosexualité existe évidemment au Maroc comme partout dans le monde. C'est vrai que ça fait partie de ces non-dits, ça fait partie de ces choses qu'on vit surtout à l'ombre. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de donner vie à ces personnages-là et qu'ils existent au grand jour, que cette histoire-là éclate au grand jour, qu'on puisse mettre des visages sur Halim, sur Youssef, parce qu'il y a tellement de personnes justement qui vivent la même chose mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Après, c'est vrai que j'ai rencontré à travers le monde des personnes qui vivaient des situations vraiment très similaires, alors qu'ils sont dans des pays qui ne sont pas forcément où l'homosexualité n'est pas forcément illégale, mais qui pour d'autres raisons, soit des pressions sociales, soit familiales, etc., n'arrivent pas non plus à vivre ouvertement leur homosexualité. Et puis encore aujourd'hui, il y a des pays dans le monde où malheureusement on est en train de revenir en arrière, des États aux États-Unis, en Pologne, voilà ce qui est en train de se passer par rapport à la place de la communauté LGBT est quand même assez effrayant par endroits, je trouve.
Néanmoins, votre film sortira au Maroc.
Absolument, il sortira au Maroc et pour moi c'était essentiel justement qu'il puisse sortir, qu'il puisse rencontrer son public naturel, parce que je crois profondément qu'il y a des choses desquelles on doit parler, qu'il y a justement des histoires et des êtres qui doivent exister. Et là, je me réjouis du fait qu'il sorte en mois de mai.
Alors, les sentiments de ce triangle amoureux, enfin, je crois qu'on peut parler de triangle amoureux, hein, donc ce triangle que forment Mina, Halim et Youssef, ces sentiments évoluent au cours du film. C'est presque un processus chimique, enfin, un souterrain que vous filmez, Mariam Touzani, comme vous filmez Mina qui, on va dire, qui retombe malade. Hein, c'est, voilà, elle est malade même au début du film.
Elle est malade.
Et Lubna Azabal, on voit la transformation physique du personnage.
Oui, c'était important pour moi qu'on la voit. J'avais pas envie de la fabriquer, j'avais pas envie qu'on me mette des costumes beaucoup plus grands pour montrer que j'avais perdu du poids alors que pas. Et puis c'est important pour la véracité de ce personnage. J'aurais pas pu faire semblant en fait. Et puis j'avais pas envie non plus. J'avais pas envie de jouer la maladie, je voulais que la maladie joue sur moi. Et c'est important pour moi de perdre du poids, d'être réellement fatiguée par cet état-là, d'avoir cette réelle maigreur que Mariam pouvait filmer, ça, et d'avoir cette évolution. C'est une femme qui va mourir. Donc à partir de ça, il était hors de question. Je ne me voyais pas avoir le même poids au départ et le même poids à la fin. C'était juste. Si moi je peux pas croire en ce que je fais, le public ne peut pas y croire non plus. Donc j'ai besoin moi avant tout de croire dans ce que j'incarne. Voilà. Et ça a été très important, de faire ça. Donc j'ai été à 300 calories jour pendant quelques temps.
Non mais c'est dire l'implication. De votre actrice Mariam Touzani.
Ah non mais c'était. Moi je me rappelle. Ce qui m'avait énormément touchée chez Lubna, c'est vrai que moi j'avais imaginé ce dos, par exemple, dans le film, qui évoluait, qui était de plus en plus décharné, c'est ça. Cette femme qui se fragilisait visiblement, à vue d'œil, je veux dire. Et puis, donc, on avait parlé de cette perte de poids avec Lubna, mais moi, ce qui m'a touchée encore plus, c'est une phrase que Lubna m'avait dite. Elle m'a dit, moi, je veux sentir la mort dans mon corps.
Oui, c'est ça.
Je ne veux pas faire semblant, je veux la sentir. Je veux arriver sur le plateau fatigué, je veux sentir cette fatigue, je veux sentir cette fin de vie. Et justement, Lubna a poussé les choses à l'extrême. Après, elle était suivie par une nutritionniste, elle faisait ses analyses et tout, mais en même temps, elle poussait dans cette quête de vérité absolue qu'est la Lubna. Et c'est ça ce que j'adore chez elle, justement, aussi, c'est qu'il y a une vraie recherche de vérité de son personnage, d'une puissance absolue.
Et ça, on le sent bien dans le film. Moi, je trouve que c'est un film aussi sur le lâcher-prise. Lubna, vous incarnez Mina, elle est malade, la vie s'en va d'elle, il y a quelque chose qui part, et Halim, c'est peut-être la honte qui part de lui, on le voit à la fin, il a l'air d'être assez rasséréné.
En fait, Mina, en partant, lui offre le cadeau de la vie quelque part, c'est-à-dire c'est une renaissance pour lui. Elle part, mais en laissant un nouveau souffle, en lui insufflant la vie en partant. Parce que justement, elle lui insuffle cette confiance en lui, cet amour qu'il n'avait pas, cette acceptation, cette fierté d'être qui il est. Donc c'est en partant qu'elle décide, quelque part, de faire ça. C'est le plus beau geste d'amour qu'elle peut avoir. C'est de lui rendre la possibilité d'être heureux.
Et puis moi, je pense que même si elle partait pas, tu vois, je me suis dit, avec le temps, parce qu'il y a le personnage du stagiaire de Ayoub qui est magnifique, et je pense qu'elle voit en lui quelqu'un en fait de bien, sur qui, voilà, et peut-être que si elle n'était pas partie, ils auraient pu vivre à trois dans cette maison. Moi, je la vois très bien, tu vois, si on avait fait pas cette fin-là... Ils auraient pu.
Ça
aurait été un autre film, mais bon, ils n'auraient pas couché à trois. Hein, on ne parle pas de ça, mais d'avoir cette colocation comme ça et d'être heureux,
un
de
côté
se réinventer. Oui, exactement, et de se réinventer cet amour qu'on peut pas, et de se le réapproprier et d'être bien avec ça, parce que voilà, moi je pense quoi.
Il y a un côté presque transmission. On parlait de transmission des gestes, du savoir-faire, mais il y a aussi de la part de Mina un côté transmission.
Quand
elle parle à chacun,
ouais.
À des moments
mais
différents.
Mais c'est presque testamentaire en fait. Elle dit les dernières choses qu'elle doit leur dire C'est presque un côté presque patriarche. Enfin, je sais pas, c'est peut-être le patriarche, Mina. Enfin, tu sais, un côté où elle. Allez-y quoi. Aimez-vous, enfin, elle leur donne cette
Autorisation.
Oui, c'est, j'aime pas autorisation parce que c'est comme si. Mais ça les rassure de se dire. Parce qu'il y a de l'amour même qui se transmet chez les trois personnages. À un moment donné, c'est cette famille. Il y a un nouvel élément qui rentre dans cette famille, qui est le personnage de Ayoub. Et ils sont unis, quoi. Donc, c'est pas autorisation. Elle confie son mari et elle leur dit, c'est pas grave. C'est une bénédiction. Elle leur dit, c'est pas grave. Et pour quelqu'un en plus qui a la foi en Dieu et tout ça, il y a quelque chose comme ça de... C'est l'amour, quoi. Mmh. C'est pas sale.
Mmh. Alors, pendant tout le film, le film, donc, on l'a déjà dit, il s'intitule Le Bleu du Caftan, mais il faut le dire, il y a presque un petit suspense. Je ne sais pas si c'est un suspense, mais enfin, pendant tout le film, Halim, il confectionne quand même un caftan. Alors, c'est un caftan pour une cliente. Un caftan d'un bleu particulier, Mariam Touzani.
D'un bleu pétrole. D'un bleu pétrole que j'ai mis des mois à trouver, d'un bleu que j'avais imaginé.
Donc, c'est pas le bleu du caftan de votre mère?
Non, justement, le caftan de ma mère était noir. Et ce caftan est fait à l'identique du caftan de ma mère. C'est vraiment le même caftan. Et j'ai cherché des différentes broderies pendant des mois aussi. Et c'est en me rapprochant de la broderie du caftan de ma mère que je me suis rendu compte qu'au final, c'était ce caftan que je cherchais. Sans me rendre compte, c'était cette broderie que je cherchais, celle qui m'avait inspirée. Mais oui, ce bleu pétrole, je l'ai cherché pendant des mois. J'avais des petits bouts de tissu bleu partout à la maison. Je les traînais avec moi partout à Salé, dans le cimetière, pour voir la lumière, comment elle réagissait. Mais j'avais imaginé un bleu que je n'arrivais pas à trouver. Et ça, je peux vous dire que j'étais heureuse le jour où je l'ai trouvé. Mais ce bleu pétrole, pour moi, a quelque chose de très beau parce qu'il est changeant, en fait. Il y a des fois où il est plus sombre, il y a des fois où il est moins, il y a des fois où il est verdâtre. C'est comme un océan, c'est-à-dire quand on l'ouvre, j'ai l'impression de voir un océan devant moi. J'avais envie de ça aussi, de cette matière changeante, de la manière dont il reflète aussi la lumière. Et puis, dans ce bleu aussi, pour moi, qui symbolise l'immensité, l'immensité de l'océan, l'immensité du ciel, il y a quelque chose pour moi d'un souffle de liberté dans le bleu. Il y a quelque chose de libre que je ressens en tout cas en regardant cette couleur.
Bleu comme les yeux de Saleh Bakri.
Bleu comme les yeux de Saleh Bakri. Et ça, c'était un hasard. Hein. Ça, c'était un pur hasard. Et je me suis dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie en fait. C'était un clin d'œil de quelque chose de... Mais oui.
Saleh Bakri, dont il faut préciser qu'il est arabe-israélien. Donc, je ne sais pas si c'est pas le même arabe que l'on parle au Maroc.
Saleh est palestinien. Il parle avec un accent palestinien et il a travaillé justement beaucoup beaucoup sur son accent en amont avant de venir au Maroc déjà à distance avec son coach et puis une fois au Maroc aussi sur place pour s'approprier l'accent marocain et qu'il a réussi parfaitement à faire justement mais avec beaucoup de travail et d'investissement parce que c'est un comédien justement extrêmement extrêmement investi et très perfectionniste.
Et donc, il a appris à broder aussi avec le Maalem.
Oui, bien sûr, il a appris. Pas qu'à broder, mais c'est aussi l'attitude du Maalem. C'est connaître l'univers, c'est connaître ses gestes. C'est vraiment plonger dans une autre réalité. Et il a pris le temps de faire ça aussi, oui, bien sûr.
Merci, Mariam Touzani. Merci, Loubna Azabal. Je rappelle le titre de ce très beau film. Et c'est votre deuxième collaboration ensemble, oui. Après Adam. Ce film, c'est Le Bleu du Caftan sur les écrans français dès mercredi prochain. Et donc, au Maroc. En mai. On se retrouve pour le journal du cinéma juste après ce titre d'Etai James, I Got You Babe, un standard remis au goût du jour par la série The Last of Us, dont le dernier épisode vient d'être diffusé. We don't have a Et c'est l'heure du journal du cinéma avec vous Isabelle. Tout d'abord, un petit retour sur la cérémonie des Oscars à Hollywood qui a fait des heureux et notamment en Asie.
Oui, la comédie déjantée Everything Everywhere All at Once a fait une razzia sur les Oscars, remportant 7 prix majeurs, dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour son héroïne Michelle Yeoh, première comédienne d'origine asiatique à recevoir la récompense suprême. Le film allemand À l'Ouest, rien de nouveau, remporte l'Oscar du meilleur scénario original et du meilleur montage pour cette nouvelle version du célèbre roman sur la grande boucherie de la guerre 14-18. Il a également reçu diverses récompenses techniques. Brendan Fraser rafle une statuette du meilleur acteur pour son rôle de professeur obèse reclus chez lui dans The Whale, la baleine. Et le réalisateur mexicain Guillermo del Toro est récompensé pour son film d'animation, une version sombre de Pinocchio. Enfin, l'Oscar du meilleur documentaire est décerné à Navalny, réalisé par le Canadien Daniel Roer. Cette enquête décrit l'ascension politique du plus célèbre opposant russe, Alexei Navalny. La tentative d'assassinat à laquelle il a difficilement survécu et son emprisonnement actuel en Russie.
Michelle Yeoh a donc gagné l'Oscar de la meilleure actrice et vous le disiez, c'est la première actrice asiatique à gagner ce prix. Cette Malaisienne de 60 ans, ancienne Miss Malaisie, ancienne ballerine, dont la carrière a débuté à Hong Kong, fait la fierté de son pays. Depuis sa victoire dans les cinémas de Kuala Lumpur, des Malaisiens qui n'ont pas encore vu le film se pressent dans les salles. Alors si tous ont leur avis sur l'œuvre, le respect pour l'actrice est universel. Écoutez ce reportage en Malaisie de notre correspondante Juliette Petrachevski.
À la sortie de la salle, c'est une évidence pour cette Malaisienne, Michelle Yeoh ne l'a pas volée.
Elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice parce qu'il y a tellement de rôles qu'elle doit jouer dans ce film. Elle doit être une femme folle, puis ensuite une femme triste, et puis après c'est différent. D'une minute à l'autre, elle doit changer de rôle, donc je pense qu'elle a vraiment bien fait son travail d'actrice.
Mais cette spectatrice le reconnaît, la brillante carrière de Michelle Yeoh dépend avant tout de Hong Kong.
Elle a débuté sa carrière à Hong Kong, pas en Malaisie bien sûr. Elle a débuté à Hong Kong.
Pourquoi vous dites bien sûr ?
Parce que, comment dire, Hong Kong, probablement pour nous les Asiatiques, on adore les films hongkongais. Alors on accepte les acteurs et les actrices qui viennent de Hong Kong. Ils ont un très bon jeu.
Ça veut dire que si elle avait commencé sa carrière en Malaisie, ça aurait été différent ?
Oui, 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 exactement.
Pourquoi vous rigolez ?
C'est vrai, c'est parce que c'est vrai. Rien de cela ne serait arrivé sinon.
Actrice et productrice de cinéma, notamment d'arts martiaux, Michelle Yeoh était aussi devenue en 1997 une James Bond girl dans Demain ne meurt jamais, un premier saut dans le cinéma hollywoodien. Désormais oscarisée, elle rentre dans le temple des légendes du 7e art. Amira salue la carrière de son actrice.
Huge.
C'est une énorme récompense pour elle, parce qu'elle peut tourner dans des films hollywoodiens. Tous les Malaisiens ne peuvent pas faire ça, donc c'est la meilleure actrice de tous les temps. Son jeu est le meilleur, parce que parmi les acteurs de Malaisie, peu d'entre eux peuvent tourner en dehors. Beaucoup restent en Malaisie.
Avec sa récompense, Michelle Yeoh devient aussi la fierté des Malaisiens, explique Dia.
En tant que femme, asiatique et malaisienne, je me sens très fière. C'est quand même la première comédienne asiatique à gagner l'Oscar de la meilleure actrice. C'est un exemple pour nous. Le fait qu'elle soit de notre pays et qu'elle entre à Hollywood, forcément ça fait quelque chose. Oui, 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 bien sûr que je le suis.
À 60 ans, Michelle Yeoh inspire aussi par son âge, souligne ce Malaisien.
C'est hyper impressionnant de voir qu'à cet âge, Michelle Yeoh est encore très forte. Donc pour moi, c'est très impressionnant. Elle a déjà 60 ans et beaucoup de gens à sa place se diraient « Bon, j'ai 60 ans, peut-être que je devrais songer à arrêter. »
En 2013, Michelle Yeoh avait reçu le titre de Tan Sri par le roi de Malaisie, l'une des distinctions civiles les plus prestigieuses du pays. Juliette Pietraszewski, Kuala Lumpur, RFI.
Joie et fierté en Malaisie, et c'est aussi le cas en Inde, Isabelle, puisque deux films indiens ont été récompensés par des Oscars.
Oui, un Oscar du meilleur court-métrage documentaire, et puis surtout le tube Natu Natu du blockbuster indien RRR, je prononce à la française, remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale, et Vincent, du coup, les poids lourds comme Lady Gaga ou Rihanna. On ne résiste pas à vous la faire entendre, Natu Natu, chanson virale. పొలం గట్టు దుమ్ములో నా పోట్ల చిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్రజొన్న రొట్టెలోన మిరప దుక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు
Natu Natu, la chanson du film indien RRR qui raconte l'histoire de deux révolutionnaires de l'ère coloniale et fait écho à la mythologie hindoue, offrant des scènes d'action à profusion. De Hollywood, on part à Lille, où le festival Cérimania s'est ouvert hier. Et c'est le plus grand événement du genre en Europe, Isabelle.
Oui, un festival gratuit pour tous les publics. Pendant 8 jours, les sériphiles pourront découvrir une 50aine de productions venues de 20 pays. C'est un festival à la fois populaire et qui reçoit de nombreuses stars. Ce qui est bien à Cérimania, c'est que les habitués des séries anglo-saxonnes pourront découvrir d'autres horizons, comme des productions grecques ou iranienne. À noter la projection hors compétition en séance spéciale et en première mondiale de la série Black Santiago Club, co-réalisée par Tiburce Bokovo et Toumanou Sangaré, le cofondateur du collectif Courtrajmé.
On apprend la disparition d'un des pionniers du cinéma camerounais.
Le réalisateur, scénariste et monteur Jules Takam est décédé à Paris. Il avait 81 ans. En 1960, dans un Cameroun tout juste indépendant, le jeune apprenti couturier rêvait de faire du cinéma. Il avait réussi à partir en France, à étudier au Conservatoire libre du cinéma. Employé comme assistant monteur sur la deuxième chaîne de télévision française, il avait sorti son premier court-métrage en 1972. Il avait également travaillé comme assistant monteur sur le film Munamoto de Jean-Pierre Dikongé Pipaki, récompensé de l'étalon d'or de Yenanga au FESPACO en 1975. Il s'était enfin lancé dans la réalisation de son premier long métrage, L'appât du gain, suivi d'un second co-réalisé avec Daniel Kamoua, Le cercle du pouvoir, sans pour autant connaître le succès public.
Et on termine au Maroc, plus particulièrement à Rabat, où s'est tenue cette semaine la première édition de Roots Rabat. Du 12 au 16 mars, ces journées dédiées au cinéma panafricain ont célébré l'enracinement du royaume chérifien dans son continent, en invitant des représentants de l'industrie du cinéma venus de plus de 15 pays africains. En journée, Roots a offert des espaces aux professionnels pour discuter du 7e art sur le continent. Et les soirées étaient, quant à elles, dédiées à la projection d'œuvres africaines, un volet ouvert au public marocain pour lui permettre de découvrir des films auxquels il n'est que rarement confronté. Nadia Ben Mafoud, notre correspondante au Maroc, nous raconte cette première édition de Roots Rabat.
Quand tu vas dans la salle de cinéma, on projette la lumière. Tu vas voir des images et tu vas tout comprendre. Tu regardes et tu te transformes.
Cette voix, c'est celle de Drissa Touré, ce réalisateur burkinabé passé aussi vite de l'ombre à la lumière à la fin des années 80 que de la lumière à l'ombre au début des années 2000. C'est son histoire que raconte Salam Zampaligré dans son documentaire « Le taxi, le cinéma et moi » diffusé à Rabat lors de cette première édition de Roots. Un documentaire qui dresse deux portraits, celui de Drissa Touré, mais aussi celui du cinéma africain actuel. Salam Zampaligré.
Faire du cinéma en Afrique, c'est un véritable parcours du combattant. Quand je vois des aînés qui vivent la précarité, qui sont dans la léthargie, je pense qu'il y a intérêt à se poser des questions quant à notre avenir.
C'est justement pour se poser ces questions et réfléchir à des solutions qu'a été créée Roots Rabat. Marwan Fashan, directeur général de la fondation HIBA et organisateur de Roots.
On s'est rendu compte qu'en tout cas au Maroc, il manquait un événement professionnel autour du cinéma qui pouvait à la fois allier une programmation artistique de films africains et un événement, un espace professionnel où les acteurs de la chaîne de valeur cinématographique peuvent se rencontrer, se voir, parler, discuter, penser synergie, coopération sud-sud, etc., etc.
Si les soirées de Roots Rabat sont dédiées à la projection de documentaires, de longs et de courts métrages ou encore à des films d'animation, les journées sont quant à elles dédiées aux professionnels. Ils se rencontrent, discutent et pensent l'industrie de demain sur et pour le continent. Pour Hicham Fallah, l'un des animateurs des tables rondes de Roots, l'idée n'est pas de faire un cinéma uniquement africain, mais d'inverser les rapports de force.
Souvent, il y a des films qui peuvent être faits que par des Africains, mais dont le financement vient de l'étranger. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que va être la diffusion, la circulation de son œuvre n'est plus contrôlée par ces professionnels africains. Et donc, on a des talents, mais on n'a pas réussi à établir un rapport de force de telle manière que cette créativité, elle soit valorisée et que quand il y a des revenus, ça revienne sur le continent.
Ces journées du cinéma panafricain ont aussi pour but de cultiver une identité panafricaine chez le public marocain. Abderrazer est heureux de retrouver cette identité sur le grand écran.
Les réalisateurs africains, ils font des films d'une façon exceptionnelle. C'est pas comme Hollywood, c'est pas comme en Inde, en Chine. C'est une touche spéciale. Je crois que quand je regarde un film africain, je comprends mieux.
Après cette première édition où public et professionnel étaient au rendez-vous, les organisateurs souhaitent désormais faire de cet événement une rencontre annuelle majeure du cinéma panafricain. Nadia Ben Mahfoud, Rabat et RFI.
C'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde, une émission présentée par Isabelle Chenu
et Sophie Torlotin à la réalisation Alice Ménard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de la réalisatrice Jeanne Herry pour son film « Je verrai toujours vos visages ». D'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.